Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Oh, mais alors dites donc, c'est un qu'est-ce qu'on déguste qui démarre tout doucettement. Un premier qu'est-ce qu'on déguste de l'année. Aurélien est à la technique et je suis tout seul de l'autre côté dans le studio. Il y a Philippe Audard qui rentre dans le studio, monsieur, dame. Il est en train de finir sa colle conf avec, je sais pas, les États-Unis peut-être. Qu'est-ce qu'il est en train de monter comme entreprise internationale ? Quel holding ? Le Audard and Company est en train... Ah, j'étais en train d'ouvrir une bouteille au moment où Paul Chéreau arrive avec peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'on a ? On a du blanc là-bas. Hop, alors je n'ouvre pas la bouteille de rouge que j'étais en train d'ouvrir. Ça ira mieux. Il est lui aussi en col conf, en fait, avec je ne sais qui. Une jolie fille, peut-être ? Fais voir. Hein, ça a l'air d'être une jolie fille. Paul Chéreau arrive en retard. Philippe Audard arrive en retard. Mais ce n'est rien à côté d'Émilie Pouchet de la Costa qui va être encore plus en retard.
Non, mais nous sommes à l'heure.
Bon, on va tirer les rois aujourd'hui, hein, les gars, dans ce qu'est-ce qu'on déguste brinque-ballant de cette nouvelle année 2022. On verra bien qui est la reine de qui. On s'intéressera. C'est bien. Tu veux qu'on ouvre du rouge ou tu veux qu'on ouvre du blanc ? Vas-y, fais comme tu veux. Allez. elle est chaotique cette émission, mais vous savez comment c'est. On va les attaquer un petit peu au blanc, un petit peu au rouge et tout va s'organiser tranquille. On va avoir quand même quelques invités et pas les moindres au cœur de l'actualité. On va passer un coup de fil en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite ? C'est le dernier jour, c'est l'arrivée du Paris-Dakar. Alors pourquoi on s'intéresse au Paris-Dakar ? Nous, à qu'est-ce qu'on déguste ? Bah parce que d'abord, on n'est pas à une contradiction près, hein, sur l'écologie et tout le reste. Mais parce que j'ai vu apparaître aujourd'hui sur le Facebook des régionaux de l'étape qui ont fini en camion là le Paris-Dakar aujourd'hui, apparaître un foie gras avec une étiquette Chabrol du Tarn-et-Garonne, de la Motte Capdeville.
Du coup, voilà, ça m'a, relation.
Ça m'a donné
mieux.
Envie d'abord d'aller manger là-bas ce midi, je vous en parlerai, et puis ensuite de passer un coup de fil à ces deux personnages qui doivent être quelque part dans le désert là, en train de remettre leur GPS et tout ce qu'on doit faire comme protocole quand on arrive et qu'on a enfin fini l'étape. C'est qu'est-ce qu'on déguste, je vous laisse arriver, ça va Paul?
Oui, impeccable, merci, ça va très bien.
Allez, on fait le sommaire après quand on veut. Qu'est-ce qu'on écoute, Aurélien ?
Du coup, Métronomie qui devrait sortir un album dans quelques jours ou dans quelques semaines.
Et qu'est-ce qu'on déguste ? Et ça commence comme ça peut. Vive 2022 !
Things will be fine.
change the world. You could be the one to drag me out this hole. Yeah, I might save the day. Yeah, I might change the world.
Bonjour. Et bonjour Émilie qui arrive sur la fin de ce morceau de métronomie. Je fais pas la bise. À 10 mètres, ça s'appelle les gestes barrières. Surtout avec Émilie, on sait jamais trop d'où elle sort. Mais ça t'apprendra à être en retard.
Je t'ai dit, mais je suis positif, moi.
Je suis très positif dans la vie.
Ça m'évitera une dose supplémentaire.
Ouais.
C'est impeccable.
Super. On est tous positifs dans cette émission. Bonjour Émilie.
Salut à tous.
Comment ça va? Évidemment, tout ça, c'est de la blague. Vous l'aurez compris. Ça va?
Non, c'est trop sérieux. Hein.
Oui, oui, oui.
Ça va très bien. Je finissais ma chronique.
Dans, oui, dans les embouteillages, ça ne m'étonne pas. Tu vas parler de quoi aujourd'hui?
De Tartuffe.
D'accord, oh, on est très très littéraire.
Dans l'actualité.
Tout à fait.
Moi j'ai L'art de mentir de Mark Twain,
eh ben
une
voilà.
Petite chronique sur un livre
d'accord.
Remarquable.
Et Paul, toi tu nous parleras de...
Mais moi j'ai porté du pinard.
Bon, ça c'est bien déjà. On attaque avec quoi?
Un âpremont, c'est la jacquère de Savoie.
D'accord. C'est tout.
C'est bon.
Voilà,
c'est
en
c'est
domaine les 13 lunes.
D'accord. Et ben tu trouves ça où tu,
pourquoi ouais,
tu
on veux... a échangé sur on a fait un petit voyage avec les copains de Gaillac là. On a visité
avec des vignerons de Gaillac.
Oui, avec les vignerons de Gaillac, on se fait un voyage d'études. Petit
d'accord.
Week-end, on part.
T'as compris les études.
Ça
fait avec le coup de ces études.
Comment ça se passe ça?
Et bien, on prend un minibus, on est une dizaine, on loue un hôtel et puis on va visiter les vignerons d'une région. Et là, c'était la Savoie. Donc c'est très sympa. On discute.
Donc vous emmenez avec vous de vos quilles, j'imagine?
Oui, pour échanger un petit peu. Et puis surtout, on voit leur façon de travailler, leur philosophie. Évidemment, on est allé rencontrer, on a ciblé des vignerons qui travaillent dans la même...
même démarche que
nous. La même démarche que nous, ouais, voilà, en bio, en biodynamie, vinification nature. Et c'est très sympa, c'est sympa, ouais.
D'accord, voilà. Et celui-ci s'appelle les 13 lunes.
Même les 13 lunes,
on
ouais.
sait pourquoi
les 13 lunes.
Oui, pourquoi?
Pourquoi ça? Eh bien, dans une année, il y a 13 lunes, apparemment. 13 cycles.
D'accord.
Lunaires, voilà.
Oui. D'accord.
C'est
ah
un
oui.
jeune domaine, ils ont démarré en 2016. Voilà, c'est un couple d'une quarantaine d'années. Et c'est une reconversion. Et ils ont récupéré 5 ou 6 hectares, je crois. Et c'est très, très, très sympa.
Bah, c'est très, très, très bon. Allez, santé, on trinque avec ça.
Donc, la jacquère, cépage de Savoie.
Hein? Cépage de la jacquère.
Oh. C'est cépage endémique d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est un vieux cépage. Ça.
Ah oui. Ouais, ça le va en poupe, les vins de Savoie.
Ouais.
Les vins d'altitude, là, ils tiennent pas leur vin, quoi. Ça avait mauvaise réputation à un moment donné, mais là.
Ah bon, pour quelle raison?
La réputation?
C'était pas bon
ou... Oui, certainement, oui, comme beaucoup de petits vignobles où les vins étaient mal vinifiés, surtout.
Oui, et puis il y avait toute petite production, hein, ça va. C'est, un petit, c'est une appellation qui ne produit pas beaucoup. Quoi. Quand, si on compare aux grandes appellations.
Ouais, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que par rapport à chez nous, c'est un peu le même climat, les mêmes terroirs.
Y a des argiles calcaires.
Ouais. Et puis chaud l'été, pluvieux au printemps.
Et pas les mêmes cépages.
Et non, pas du tout.
Et pas du tout. Et pas les mêmes vinifs non plus. Sur les blancs, ouais.
Mais quand c'est fait naturellement, c'est les mêmes vinifs.
Oui, oui. Enfin, non, quand même, ils, ont, ils font. Non, ils travaillent pas.
Mais il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup.
Il y a des particularités. Après, les goûts, les goûts des vins de Savoie, c'est pas des goûts que les gens aiment beaucoup. Hein. C'est des goûts particuliers, des fois.
Écoute, là, ça a le vin en poupée. Hein. Mmh. Une attitude, mmh. il n'y tient pas, quoi.
Bon, bah, en tout cas, c'est très bon. Merci de nous avoir, de nous régaler. On va couper la coque des rois tout à l'heure. On va tirer les rois. C'est une coque de Limoux que je vous propose de partager ce soir. Mais elle n'est pas de Limoux, en fait. Elle est faite par le boulanger qui est en face de du commissariat de Montauban.
Et pourquoi de Limoux, alors ?
Et alors, voilà, c'est ce que j'ai demandé à la dame qui me l'a vendue. Et elle m'a dit que la coque de Limoux, c'est celle avec les fruits confits dessus.
Voilà. D'accord.
Donc on aura encore appris quelque chose, mais enfin, c'est à creuser, hein, parce que pourquoi la boulangerie en face du commissariat appelle la coque avec les fruits confits, la coque de Limoux ? Là, il va falloir enquêter quand même.
Là aussi, coque reste encore indéfini, très très mal défini.
Je vais vous faire écouter quelque chose. Et vous me dites, juste à les, ouais, c'est un quiz. Vous me dites, à votre avis, quel est le nom de l'artiste que vous entendez là?
T'as faim?
Non, mais.
Moi, je suis nul.
La Daft Punk à ma gauche.
Non, pas les rock, les. Buggles.
Et Buggles à ma droite.
Non plus.
Mettre un peu de son. Hein.
À tout récent, ça.
Un indice ?
Oui.
1982.
Ah, je t'ai même pas dit.
Super, puis que c'est l'indice, merci. Je me rappelle ce groupe qui était habillé avec des espèces de salopettes, monsieur.
Les Allemands, tu veux dire ?
C'est pas les Kraftwerk, ça.
C'est pas les Kraftwerk.
Les Kraftwerk sont moins denses que ça. Mais... Non, perdu, désolé.
On se l'écoute et puis je vous dis après. Inspiré de l'époque des Kraftwerk, quand même, un très très grand nom du rock des années 70, un dieu du rock des années 70, qui a sorti un album inédit il n'y a pas très très longtemps. Il a exhumé un album, ça c'est l'album exhumé, et on reconnaît bien sa voix, album réalisé à l'époque d'un autre album qui était très connu, sur lequel beaucoup ont fumé des substances illicites, pas que du CBD. Là, tu connais ça quand même, la voix.
dirais Neil Young, mais...
Ben oui, c'est Neil Young.
Neil Young qui faisait mais ce titre d'avant. Non, là, c'est un piège quand même. Là,
c'est parce que effectivement un piège, mais c'est l'album Trans de Neil Young qui fête ses 40 ans aujourd'hui, qui a été un album qui a été complètement incompris quand il est sorti en 1982 et qui a été l'album du bide absolu de Neil Young. Donc il faut absolument revisiter aujourd'hui, et c'est grâce à un très très chouette article paru dans Trax, le site internet, que j'ai pu avoir la curiosité d'aller écouter ce Neil Young. Je vous invite donc à l'écoute de l'album Trans de Neil Young, qui fête donc cette année ses 40 ans. Alors, on parle des menteurs, là, avec...
Si tu veux, oui.
C'est quoi, Dickens, non, c'est pas ça?
Non, c'est Mark Twain. Mark Twain, qui est auteur-écrivain. Mark Twain, qui est considéré comme l'un des pères de la littérature américaine. Il est célèbre pour deux romans principaux, Les aventures de Tom Sawyer, que tout le monde a vu ou lu, ou... voilà. Et Huckleberry Finn, ça vous dit quelque chose? Bon, voilà.
Oui, bien sûr.
Ça, merci. Merci, Paul. Donc Mark Twain, qui est le maître dans l'ironie, le sous-entendu assassin, mais au final plus véridique qu'un vendeur de vérité. Donc, d'après Mark Twain, le mensonge est universel. Nous mentons tous, nous devons tous mentir. Donc la sagesse consiste à nous entraîner soigneusement à mentir avec sagesse et à propos. À mentir dans un but louable et non pas dans un but nuisible. À mentir pour le bien d'autrui, non pour le nôtre. À mentir sainement, charitablement, humainement, non par cruauté, par méchanceté, par malice. À mentir aimablement et gracieusement et non pas avec gaucherie et grossièreté. À mentir courageusement, franchement, carrément, la tête haute et non pas d'une façon détournée, tortueuse, avec un air effrayé, comme si nous étions honteux de notre rôle. Cependant très noble. Ceci étant dit, seul le menteur connaît la vérité. Mentir serait ainsi le seul verbe que nous puissions alors conjuguer au futur. Bon, avec le verbe mourir aussi. Ne nous offusquons pas, bien au contraire, il est juste déplorable que l'on sache si mal mentir de nos jours, que cet art du mensonge ait subi une pareille décadence. On ment mal de nos jours. Voyez le regrettable, mais non regretté, covidé Olivier. Combien il en a prostitué la science à force de mensonges. De cet art courtois, les hommes politiques, tels ce dernier, sa bande d'escrocs en bande organisée, en ont fait une routine étriquée et malfaisante. Dans nos sociétés brutales, le mensonge honté supplante le mensonge honteux, mais que l'on mette par calcul plutôt qu'élévation, voilà qui ne surprendra guère. Et l'on sent bien qu'au fond, ce n'est pas le mensonge qui nous préoccupe, mais bien notre conscience. Cette odieuse invention, la conscience, dont on aimerait bien se débarrasser, notre conscience. Oui, c'est bien la conscience, le fond de la réflexion, cette conscience vulgaire qui ne sait ni se défaire de sa prévention à l'égard du mensonge. C'est donc, in fine, l'art de tromper la conscience plutôt que l'art de mentir, l'art de tailler en pièces sa conscience et d'en défaire plutôt que l'art de bien mentir. Alors, je vais vous lire quelques lignes de Mark Twain pour mieux comprendre son propos. Alors, les hommes dans ce pays lointain étaient tous des menteurs sans exception. Tous mentaient. Lorsqu'ils se saluaient, aucun ne s'intéressait à votre santé, à part les fossoyeurs. Au « comment allez-vous, coutumier ?», vous répondiez par un mensonge, car il ne s'agissait pas d'un vrai diagnostic, mais d'une réponse au hasard. Au fossoyeur, vous mentiez en affirmant que votre santé déclinait, mensonge hautement recommandable, puisqu'il ne vous en coûtait rien et c'était agréable à autrui. Un mensonge maladroit non scientifique est souvent aussi fâcheux qu'une vérité, et nous désolerons de la disparition du mentir courtois au profit du mentir brutal. Tout est dans l'art et la manière. Cela vaut pour la vérité comme pour le mensonge. Et pour ma part, concernant l'objet premier du mensonge, à savoir dissimuler la vérité, je vous ferai part de cette petite maxime à laquelle je crois, qui fait consensus et qui arrange bien mes questions de conscience actuelles. Donc c'est une petite maxime qui dit « La vérité, c'est comme l'huile, ça remonte toujours à la surface. » Merci. Mark Twain, je vous recommande L'art de mentir. Vieil ouvrage.
Écrit en... C'était...
1870, quelque chose comme ça. Voilà, Mark Twain, auteur de Tom Sawyer.
Toujours autant d'actualité. Pardon, j'ai la bouche pleine, je mange un peu de coq.
Il y en a qui ont la bouche pleine de mensonges.
Tout à l'heure, on va passer un coup de fil. J'espère qu'on va réussir à les avoir. à Philippe Pédèche et Philippe Perry, qui ont le dossard numéro 545 sur leur camion. Ils ont fini le Dakar aujourd'hui. Et alors pourquoi je les appelle dans le cadre de Qu'est-ce qu'on déguste ? Tout simplement parce qu'ils ont comme sponsor le Chabrol.
Oui.
Ils ont mangé un foie gras aux Émirats Arabes Unis, là-bas. Ils ont mis ça en photo sur Facebook, ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, je suis allé manger au Chabrol ce midi.
Et tu as bien mangé.
Ô combien recommandable, évidemment. Ouais. Ah oui, oui. Alors, tout à base de riz de veau en entrée, ils te servent un petit bouillon.
On a pris ça la dernière fois avec Philippe.
Ah,
et
régalé.
Et puis régalé. Après, tête de veau, sauce gribiche,
elle
magnifique.
Elle est extraordinaire, la tête
magnifique.
De
ils ont une super carte de vin.
Carte de vin remarquable.
Donc voilà.
Ouais.
Hein, alors, où c'est ? Ben, c'est à La Motte Capdeville ou encore Picocos, en Tarn-et-Garonne.
La plage d'Ardus, à côté.
C'est fait par les gardements, ceux qui avaient la plage d'Ardus, ceux qui ont aussi. Le Jacques. Saint-Jacques, par exemple. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a le vin de l'Arpette, me semble-t-il. Il m'a semblé en boire une fois, pas là-bas, mais au Saint-Jacques, j'ai dû boire du vin de l'Arpette, non ? Non ?
Et je ne sais plus si je les avais fournis.
Mon Dieu.
Enfin bref, du coup, on passera un coup de fil à Philippe Pédèche et Philippe Perry, qui est un... Comment on dit, un équipage que tu connais un peu.
Ah oui, il me montre toutes les sculptures, Philippe.
Tu m'as fait peur là, juste deux ans et demi, mais tout va bien.
Ouais.
Bon, mais c'est Qu'est-ce qu'on déguste, et ça continue tout doucettement, comme ça. Je voulais qu'on écoute un peu de musique, éventuellement notre invité de PCV de cette semaine, qui est Laura Cahen, qui vient de sortir un très très chouette album. Là, je suis un peu, j'ai un peu en continu sa voix dans la tête cette semaine. Si vous n'avez pas encore entendu pourquoi, vous allez saisir immédiatement. Laura Cahen, c'est quand même drôlement bien.
Je suis la fille du temps.
extrait de l'album Une fille, Laura Cahen. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur le festival Alors Chante de Montauban. Elle était dans les découvertes il y a 10 ans. Elle avait fait un petit live lors du plateau qu'on animait. Aurélien était à la technique en plein cœur du festival. Il tombait des cordes ce jour-là quand elle avait joué un morceau qui s'appelait alors Le Loup, quelque chose comme ça. Et donc elle m'a dit cette semaine dans les conversations qu'on a eues dans PCV, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Elle m'a dit que cette histoire de loup, ça l'a poursuivi un peu tout au long de sa carrière. Et il y a encore un morceau qui parle de loup dans ce dernier album. C'est très joli, hein, t'as vu, c'est très bien fait, très 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 chouette. Laura Cahen, monsieur dame, dans PCV. La semaine prochaine, on fera une rediff dans PCV. Ce sera quoi, Aurélien? Je sais. Ah si, c'est Manu Gallure, parce qu'il est en concert par là très très prochainement. C'est l'heure.
CFM, vos infos.
Bonsoir, la Haute Autorité de Santé donne son feu vert à Novavax. Il devient le 5e vaccin anti-Covid mis sur le marché en France. Particularité de ce produit, il est basé sur une technologie plus classique que ses concurrents, c'est-à-dire sans ARN messager. Une alternative utile pour les personnes réticentes à recevoir une injection anti-Covid, juge la Haute Autorité dans son avis remis ce soir. Les premières doses de Novavax pourraient être administrées dès le mois de février. Cédric Jubilard reste en prison. Sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée cet après-midi par la cour d'appel de Toulouse. Incarcéré depuis le mois de juin, le mari de Delphine Jubilard est mis en examen pour le meurtre de sa femme, disparue depuis décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Son corps n'a jamais été retrouvé. La politique, elle mettra fin au suspense demain lors d'un déplacement à Lyon. Après avoir fait un premier pas vers une possible candidature en décembre, Christiane Taubira va officialiser samedi son entrée en lice dans la course à l'Élysée avec une ambition, celle de réunir la gauche. Il devait augmenter, finalement il va doubler. Le taux du livret A va passer de 0,5% à 1% au 1er février. C'est une première depuis 10 ans. La confirmation est venue aujourd'hui de Bruno Le Maire sur TF1. Le ministre de l'économie a suivi les recommandations de la Banque de France qui a tenu compte de la forte hausse de l'inflation ces 6 derniers mois. On a appris la mort de Jean-Jacques Benex, réalisateur notamment du film culte 37-2 le matin. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Jean-Jacques Benex avait 75 ans. On passe au sport. Le feuilleton Novak Djokovic continue. Le tennisman serbe non vacciné ne sait toujours pas s'il pourra jouer l'Open d'Australie lundi. Aujourd'hui, le ministre australien de l'immigration a annulé son visa, mais la partie n'est pas encore perdue. Pour le numéro 1 mondial qui a déposé un nouveau recours. C'est maintenant à la justice fédérale de trancher. Et puis il y a du foot ce soir, début de la 21e journée de Ligue 1. Nice reçoit Nantes, coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'actualité, très belle soirée à tous.
CFM, CFM Radio, CFM, l'esprit rock. À Villeneuve, Figeac et Rieux-Péroux. Vous écoutez CFM Villefranche.
André Manoukian, Pirelli Lagraine, Electro Deluxe, Dalsasso Big Band, Nicolas Gardel, Yélé. Albi Jazz Festival revient du 15 au 23 janvier au Grand Théâtre d'Albi, mais aussi à la Maison de la Musique à Cap Découverte et à l'Espace Apollo de Mazamet. C'est le grand rendez-vous festif au cœur de l'hiver. Sans oublier le festival off gratuit sous un chapiteau à la programmation détonnante. Rendez-vous du 15 au 23 janvier pour Albi Jazz Festival 2022. Plus d'infos auprès de la scène nationale d'Albi ou nos réseaux sociaux.
CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
Est-ce qu'on déguste la suite ? Non mais tout le monde s'endort, il n'y a plus. Il n'y en a pas un qui a son affaire. Cette année 2022 risque d'être un peu souffreteuse, j'ai l'impression, comme ça, apathique, ouais. Hein?
Mais non,
ça va, vous allez bien, rassurez-moi.
C'est sympathique,
vous n'avez pas le Covid long, ni le court, ni quoi que ce soit, là, c'est bon. Tu vas bien?
Mais ça va très bien.
Bon.
On aimerait bien reprendre une vie normale.
Quelles sont tes bonnes résolutions pour 2022, Émilie Prochet de la Costa?
Absolument aucune, parce que je ne les tiendrai pas.
D'accord.
Donc,
pas de révolution.
Et voilà, justement.
C'est une petite révolution, peut-être. T'as des résolutions, toi, par ton inscription sur Tinder?
Mais non, il a pris sa carte de fidélité au club.
Les Kinder.
Pas de résolution, non.
Pas de résolution.
Jamais
de résolution. Bon, Philippe non plus.
Si, moi j'ai pris la résolution de d'arrêter de fumer, tiens. Ça, c'est le
mais
truc
ça fait tous les ans, tu la prends, la
ouais,
résolution.
Ouais, tous les ans, je sais, mais tu vois, j'y tiens à ma petite résolution.
Ça marche deux jours. En général, le 4, le jour de son anniversaire, il refume.
Si vous aviez pu prendre la résolution d'arriver à l'heure à cette émission.
En fait, c'est ça que vous voulez nous
placer. Ce serait pas mal, oui, c'est ça. Ouais.
D'accord. J'aimerais il bien. Est fin.
Bon, elle est pas mal, la coque elle de la boulangerie du commissariat. Je sais jamais comment elle s'appelle, cette boulangerie. Tiens, c'est écrit sur le papier, là. Qu'est-ce qu'il y a écrit ?
Délicate galette. Délicieuse galette.
Non, ça, donc, ça doit pas être le bon papier. Alors, bon, bah, tant pis. Enfin, c'est la boulangerie en face du commissariat. Voilà.
Ouais, hein, c'est très bon père aussi.
Qu'on se le dise. Et puis, alors, le riz au lait est très, très bien.
Oui.
Et alors, il faut nous en parler.
C'est du riz au lait fait avec du lait de brebis. De la ferme de Laura, je suis pas allée chercher très loin.
D'accord, t'as fait à la maison, mais c'est pas toi qui l'a fait, si ?
Non, c'est ma sœur.
Et on le trouve sur les marchés.
Et on le trouve sur les marchés.
Puis au four, les marchés ou dans la casserole.
À la casserole.
Mais comment ? Mais donne mais la recette. On
du bon lait de brebis qui pâture dans les prés, du riz rond, et beaucoup d'amour.
Un peu de sucre.
Et un peu de sucre.
Ouais.
Et cuit très très longtemps.
Mais voilà, mais ça cuit super longtemps. Il faut pas que ça bouille.
Deux heures. Il faut pas que ça accroche.
Bon. Il est très bon, il est très réussi. Tu pourras féliciter Nelly.
Bon.
D'accord.
Tout à l'heure, on passera un coup de fil à Philippe et Philippe.
De Philippe.
Non, mais c'est deux Philippe. Ah, en même temps, ils ne peuvent pas se perdre comme ça. Hein. Philippe Perry et Philippe Pédèche, numéro 545. Ils ont un gros camion. Et ils ont fait donc le Dakar avec comme partenaire le Chabrol, dont on parlait tout à l'heure. On va leur passer un coup de fil. J'espère qu'ils vont pouvoir être disponibles parce que c'est un peu compliqué. Ils sont là-bas.
Ouais. Pas où il est, le Dakar.
Enfin, le Dakar, c'est aux Émirats Arabes Unis. Donc,
comme son nom l'indique.
Comme son... Comme son nom ne l'indique pas du tout. On repart en musique avant que je vous parle qu'est-ce que j'avais prévu de vous parler d'un bouquin de Mathias Sénard, histoire de vous lire un passage où il parle de nourriture qui va beaucoup plaire à Émilie parce que ça parle de nourriture paysanne.
Ouais.
De la nourriture du Poitou, mais qui peut fonctionner pour ici. C'est le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Sénard. C'est très, très rabelaisien comme bouquin. Et je vous en parle dans quelques instants.
Salut, content de te voir, à vrai dire. Moi ça va pas trop, je déprime, je vois tout en noir, plus très loin du bout du rouleau. Pas sûr d'être mieux placé pour te remonter le moral. Moi aussi je suis dévasté par cette vie dont je pense que du mal. La guerre, le frelon asiatique, déception sentimentale, misère, changement climatique, l'existence en général. C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez viens, on va manger chez les Corses pour tuer le temps. Légitime défense, on dira du mal des gens qui disent du bien de l'existence. Y a tant de raisons de pas aller, d'avoir le moral au plus bas.
Des raisons de se lamenter, si t'en as plus, j'en ai pour toi.
Les amours qui remballent,
les gens qu'on aime et qui meurent,
les rêves qui se font la malle,
je vous fabrique des briques dans le cœur.
C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est le tendresse et de force. Allez viens.
Oh là 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 là. C'est pas ça, c'est pas facile, c'est pas un cadeau Aurélien.
Ah, c'était pour toi parce que je sais que tu as beaucoup aimé Renaud et cette sortie, je suis persuadé que tu étais passé au travers. Voilà, c'est sorti il y a quelques
merci
jours.
Pour l'actualité.
C'est surtout il y a quelques jours, voilà, Benabar et Renaud ouais. Chez les Corses.
Ah, c'était Benabar et Renaud.
Ben oui, ben oui.
Donc on a bien reconnu
Renaud
les deux
qui était vivant jusque dans les années 80. À peu
ouais.
Près. Hein, 80, si, 90, ça commençait. C'était encore pas mal en 90. Qu'est-ce qu'il y avait en 90?
Vous savez que j'ai mis mon flingue dans mon HLM.
Mais non, mais non, mais ça, c'est les années 70. Oh.
Ah bon?
Eh ben oui.
Merde, on a pris un coup de vieux, les gars.
Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, les 80 peut-être, ah, mais, oui, mais pas plus. Non, non, c'est 70.
Mistral gagnant, ça, je m'en rappelle.
Ah, ouais, après le Mistral gagnant, c'est un peu plus tard. Aurélien, si tu peux faire une petite recherche pendant ce temps-là. Je vous parle de Mathias Sénard, enfin de ce bouquin que j'ai fini par lire après que Mathias Sénard a été invité quand même sur le festival Lettres d'automne de Confluence et après qu'il aurait pu venir à ce studio, dans ce studio, mais j'avais lu aucun de ses bouquins à ce moment-là. Maintenant, depuis, j'en ai lu 3. Et c'est vrai que je suis un peu tombé en amour de son écriture, qui est une écriture très riche, très très fournie. Mais alors avec un petit bémol pour un gars inculte comme moi, c'est qu'en fait il te renvoie à ton inculture en permanence, comme ça.
C'est très
référencé en permanence. Mais ce qui est marrant d'ailleurs dans ce bouquin qui s'appelle donc Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs, c'est que il se moque lui-même de ça. Il y a une espèce de mise en abîme de la référence et de la culture. Ouais. C'est l'histoire d'un étudiant en ethnologie, un étudiant qui a bientôt 30 balais quand même, hein, qui n'en finit plus de faire sa thèse, qui va s'installer dans le Poitou pour essayer d'écrire une thèse sur la ruralité. Voilà, c'est le Parisien qui arrive avec son regard comme ça sur « mais comment peut-on vivre dans le Poitou ?» Tu vois, en gros, quoi. Et donc ça commence comme un espèce de cahier personnel, tu sais, un carnet intime comme ça de pensée, de quotidienne. Voilà, il raconte son quotidien au lieu bien souvent de travailler sur sa thèse. Voilà, et donc là tu t'aperçois qu'en fait lui qui boit pas d'alcool, il finit par aller au bistrot avec tous les gens quotidiennement, il va finir pas alcoolique mais presque. Enfin, il tombe dans un village qui est extraordinaire. Le maire est fossoyeur. Et c'est un petit village donc du Poitou, et ce maire va l'embarquer avec lui en fait dans toutes les rencontres de son village. Et alors pourquoi il est fossoyeur et pourquoi ça s'appelle la confrérie, enfin le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs? C'est parce qu'à un moment il va y avoir ce banquet qui va être décrit, et c'est par contre très déroutant cette écriture de Mathias Sénard, parce qu'on part d'un carnet de route quotidien, on enchaîne sur des histoires complètement rablésiennes de fossoyeurs qui pendant 24 heures se mettent à manger
la grande bouffe.
Ouais, la grande bouffe extraordinaire. Et puis on passe aussi par des histoires de sangliers,
de chasse,
mais aussi de batailles du Moyen-Âge, parce qu'en fait il est beaucoup question de réincarnation. Un même personnage peut avoir été réincarné des dizaines et des centaines de fois. Et ce qui est très drôle, c'est que quelqu'un a démarré une perceuse là. Et ce qui est très drôle, c'est que le décor reste le même. Ça reste le décor du Marais Poitevin. Et puis, par contre, ça peut, grâce aux réincarnations successives, changer comme ça d'aspect en permanence. C'est très déroutant, très étonnant. Allez, je vous lis un petit passage. J'arrête d'en parler parce qu'il faut le bouquiner. Juste un passage qui se passe donc dans le présent. Le présent, c'est le moment où l'étudiant en question arrive dans le village et puis écrit chaque soir son carnet de comment ça s'appelle quand t'écris tous les jours un truc, ton journal intime. Ouais, voilà. J'ai donc été contraint d'aller chez lui. Il m'a même ramené. En fait, il va chez le maire du village. Une expérience. Petit détail ignoble, je n'ai pas réussi à manger l'entrée. Du sang de poule cuit, mon Dieu, si maman avait vu ça, elle serait évanouie immédiatement. Une crêpe compacte, lisse et marronnasse. J'ai juste goûté, c'est un rien ferreux, pas pu m'empêcher de penser à la profession de mon hôte et aux produits dans ses frigos. Je rappelle que l'hôte en question est fossoyeur. Manger du sang, j'en ai des frissons. Enfin bref, cet ancêtre primitif du boudin noir s'appelle ici
la sanquette.
La sanquette, évidemment. c'est cette perceuse là qui m'interpelle. Manger du sang, j'en ai des frissons. Enfin bref, cet ancêtre primitif du boudin noir s'appelle ici Sanquette et m'a fait regretter l'Ariège. L'Ariège, c'est l'endroit où précédemment il avait fait une autre thèse. Et après, donc c'est facile, disait Monique, on égorge la poule et on garde le sang. Et après, on le cuisine, voilà. Martial et Monique, sa femme, voulaient que je découvre les spécialités du coin et ont été un peu déçus. Mais bon, je me suis rattrapé en faisant honneur au pâté d'herbes délicieux qu'on appelle tout simplement farci, vers de blettes, oseille, épinards, œufs, quelques lardons, quatre épices à retenir, aux haricots blancs. Les fameuses mojettes du marais, laissées, et puis etc., etc. Allez, je ne vous fais pas tout le truc, mais après ça ne parle que de bouffe, à chaque page ça parle de bouffe.
La recette de la sanquette est intéressante, hein, parce qu'il ne faut pas que ça coagule le sang quand tu le... Quand tu...
Il faut le touiller tout le temps.
C'est ça.
Ah, il faut mettre du vinaigre.
Et du vinaigre.
Mais tu ne mets pas des oignons,
on a affaire à des connaisseurs de la sanquette, là, non, bravo.
Tu ne mets pas des oignons normalement dans la sanquette. Comment tu fais ta sanquette, toi?
Moi, je ne la fais pas, mais je la mange.
De l'oignon, un peu d'ail aussi.
De l'oignon et de l'ail, et de la mie de pain. Voilà, et il faut touiller.
Le persil,
là? Moi, j'aime pas le persil.
Mais c'est de suite quand tu as égorgé la poule,
ouais,
quoi.
Tu mets le plat sous la poule.
Et tu touilles, parce que sinon, ça coagule très vite. Donc si tu ne touches pas, tu
les peux pas... Les gorges sur la poêle.
Voilà, gros, c'est ça. T'as la cuisine sur la poêle.
Moi, quand j'étais petit, j'en ai mangé, on disait que c'était pour avoir du fer, quoi. Que
c'était, c'était toi, un grand garçon costaud, ce que tu es devenu.
N'est-il pas. Mathias Hénard, le congrès annuel de la confrérie, le banquet, pardon, annuel de la confrérie des Fossoyeurs. We'll be right back.
C'était Electro Deluxe en concert demain, samedi, du côté de la scène nationale d'Albi, dans le cadre de la troisième édition du festival Albi Jazz, dont on est partenaire. Et on se retrouvera d'ailleurs depuis ce festival à partir de mercredi prochain pour 2 heures d'antenne entre 17h et 19h. Il y a Biréli Lagrène qui est programmé, il y a André Manoukian qui est le parrain du festival. On aura plaisir à recevoir tout ce beau monde. C'est Qu'est-ce qu'on déguste, et c'est à toi, Émilie.
Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du Tartuffe de la Comédie Française. Alors, on va peut-être attendre que la perceuse se calme. Donc, cette pièce a été créée en 1669. Le Tartuffe, c'est une satire de Molière qui critique la fosse de religion, les bondeuseries, bref, les grenouilles de bénitier. Alors, Tartuffe, le personnage lui-même, est un faux dévot qui manipule la religion pour avoir ce qu'il veut. Alors, le but de Molière dans cette pièce est de rire des religieux hypocrites qui manipulent les gens sous couvert justement de cette religion. C'est un peu comme le gouvernement actuel avec le Covid. Donc, l'histoire elle-même parle de Orgon, un riche notable en quête de perfection religieuse, qui accueille chez lui le fameux Tartuffe, qui est censé guider toute la famille vers la lumière divine. Mais ce Tartuffe a la fâcheuse manie d'être très très attiré par la maîtresse de maison dont il devient l'amant. Et évidemment, à un moment donné, il est surpris par le mari au moment où il déclare sa flamme à cette femme. Pour sortir de cette entourloupette, le Tartuffe joue les hypocrites et sème la zizanie dans la famille. Ceci, c'est l'histoire que l'on connaît, qu'on nous a racontée à l'école, mais en fait, c'est la version censurée. Car dans la version originale non censurée, le Tartuffe est un ecclésiastique. Donc, pourquoi elle a été censurée ? Louis XIV censure cette œuvre, car il ne peut pas être à la fois le garant de l'équilibre religieux du pays, et il ne peut pas laisser monter cette pièce à Molière, son comédien préféré, pour qu'il fasse la satire d'un dévot. Ça ne se fait pas. Cependant, presque 400 ans plus tard, la Comédie Française met à l'honneur la version non censurée du Tartuffe. Le metteur en scène, Ivo Van Hove, qui est un Belge, nous entraîne à la fois dans la découverte originale de cette pièce censurée, qui finalement a été montée qu'une seule fois. Donc là, ça sera la deuxième fois. La mise en scène se concentre principalement sur la crise que provoque l'arrivée de ce mendiant au sein de la famille et sur la relation adultère de Tartuffe avec la femme d'Orgon. Tartuffe passe du statut de mendiant à celui de maître spirituel, et le point culminant de la pièce, c'est lorsque Orgon décide de faire de Tartuffe son unique héritier. Et là, c'est la bombe. La pièce, nouvelle version, ne rétablit pas l'ordre des choses où finalement les biens reviennent à Orgon. Non, là c'est vraiment l'apocalypse. Et c'est un drame social qui se finit comme ça et mal. Donc cette pièce a plus de 350 ans, mais Molière n'a jamais été aussi actuel dans le contexte que nous connaissons. Il montre tout ce que l'on peut faire avaler comme couleuvre sous couvert de la bien-pensance.
Ouais, toujours d'actualité, Molière. On pourrait penser au malade imaginaire aussi. C'est pas mal.
Il n'y a pas les tests Covid à l'époque.
Ouais.
C'est bon ça.
Alors, entre les couverts qui tombent, la table qui se casse la figure, le voisin qui fait de la perceuse, on va continuer doucettement cette émission. On est en train d'essayer de joindre pour plus tard notre équipage qui a fini le Dakar aujourd'hui, Philippe Despoir. Pédèche et Philippe Perry, le numéro 545. On va réussir à les avoir. C'est un peu compliqué. Ils sont aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, c'est compliqué.
Voilà, un petit peu de guitare électrique, de grosses batteries, de chez AC/DC dans Qu'est-ce qu'on déguste, ça peut pas faire de mal. Alors on va passer un coup de fil tout à l'heure, enfin je l'espère, ce qu'on a réussi à les joindre, ces braves gens, Philippe Pédèche et Philippe Perry, numéro 545 avec un gros camion. En fait, ils ont fait le Dakar et puis c'est déjà une super performance que d'arriver à le boucler. Le Dakar, ils l'ont bouclé aujourd'hui même. Donc, on va leur passer un petit coup de fil. Alors, pourquoi le Dakar? Tout simplement parce qu'ils ont comme partenaire le resto Chabrol de la Motte Cap de Ville, qui est un chouette resto qu'on aime bien. C'est des copains. Ils font des bocaux avec des pâtés et des foie gras. Voilà. Ils en ont mangé là-bas. Voilà, c'est tout. Allez, à tout à l'heure.
CFM, vos infos.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir. Attention, votre passe sanitaire sera peut-être désactivée demain. Le gouvernement avait prévenu 700 000 Français seront concernés. Les explications dès le début de cette édition. Fin du suspense demain, Christiane Taubira va se lancer officiellement dans la course à la présidentielle. L'ambition de rassembler la gauche semble désormais bien loin pour l'ancienne garde des Sceaux. Et puis on fera le point sur le feuilleton Novak Djokovic avec une nouvelle journée pleine de rebondissements. Le joueur serbe est toujours menacé d'expulsion par l'Australie. De nouvelles règles pour le pass sanitaire, elles entrent en vigueur demain comme prévu par le gouvernement. Un pass à 3 doses pour toutes les personnes majeures et qui pourraient priver entre 500 et 700 000 Français du précieux sésame. Alors concrètement, Sophie Sarans, qui est concernée?
Eh bien pour le savoir, il faut connaître la date de votre deuxième injection. Si vous avez un doute, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur l'application Tous Anti-Covid dans l'onglet Carnet en mode frontière. C'est à cet endroit que la date des injections est écrite. Si la deuxième remonte à il y a plus de 7 mois, avant le 15 juin donc, dès demain, votre passe sera désactivé. Une exception tout de même si vous avez contracté le Covid entre-temps. Cette infection à valeur de troisième dose, le passe reste actif. Mais attention, pour que ce soit le cas, il faut bien avoir enregistré votre résultat de test dans votre application.
Notez que dans un mois, l'étau va un peu plus se resserrer sur les retardataires de la troisième dose. Le 15 février, le délai pour effectuer l'injection passera de 7 à 4 mois après la dernière dose. Le feu vert de la Haute Autorité de Santé, elle approuve le vaccin de l'américain Novavax, le cinquième mis sur le marché en France. Particularité, il est basé sur une technologie plus classique que ses concurrents, c'est-à-dire sans ARN messager. Une alternative utile pour les personnes réticentes à recevoir une injection anti-Covid. C'est ce que juge la Haute Autorité dans son avis remis ce soir. Les premières doses de Novavax pourraient être administrées dès le mois de février. Cédric Jubilat reste en prison. Sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée cet après-midi par la cour d'appel de Toulouse. Incarcéré depuis le mois de juin, le mari de Delphine Jubilat est mis en examen pour le meurtre de sa femme. Sa femme disparue depuis décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Son corps n'a jamais été retrouvé. La politique, elle mettra fin au suspense demain lors d'un déplacement à Lyon. Après avoir fait un premier pas vers une possible candidature en décembre, Christiane Taubira devrait officialiser ce samedi son entrée en lice dans la course à l'Élysée. L'ancienne garde des Sceaux avait pourtant assuré qu'elle ne serait pas une candidate de plus et qu'elle mettrait toutes ses forces dans les dernières chances de l'Union à gauche. Et pour l'instant, les conditions de ce rassemblement ne sont toujours pas posées. Mais alors, pourquoi Christiane Taubira y va-t-elle quand même? Élément de réponse avec le politologue Olivier Roucan.
Je pense qu'elle a constaté les difficultés qu'ont les différents candidats déclarés à part Jean-Luc Mélenchon. Donc elle tente sa chance peut-être pour créer les conditions de cette union. Pour l'instant, sa structure de popularité est assez homogène auprès des anciens électeurs ou des électeurs socialistes. Également, elle a une cote de sympathie auprès des écologistes, voire des insoumis. Donc elle espère peut-être, avec ce profil un peu plus transverse, rallier tout ceci. Elle a, dans l'opinion publique au sens plus large du terme, une cote d'avenir supérieure à celle d'Anne Hidalgo et même de Yannick Jadot. Donc elle espère partir de ces données d'opinion pour s'imposer.
Propos recueillis par Léo Ardourel. Il devait augmenter finalement, il va doubler. Le taux du livret A va passer de 0,5% à 1% au 1er février. C'est une première depuis 10 ans. La confirmation est venue de Bruno Le Maire aujourd'hui sur TF1. Le ministre de l'économie a suivi les recommandations de la Banque de France qui a tenu compte de la forte hausse de l'inflation ces 6 derniers mois. On a appris la mort de Jean-Jacques Benex, réalisateur notamment du film culte 37-2 le matin. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Jean-Jacques Benex avait 75 ans. On passe au sport. Le feuilleton Novak Djokovic continue. Le tennisman serbe non vacciné ne sait toujours pas s'il pourra jouer l'Open d'Australie lundi. Aujourd'hui, le ministre australien de l'immigration a annulé son visa. Mais la partie n'est pas encore perdue pour le numéro 1 mondial, François Germain.
Oui, c'est la seconde fois que le visa du Serbe est annulé. Une décision que le ministre de l'immigration justifie par des raisons de santé et d'intérêt public. Mais cette annulation va-t-elle tenir ? La première fois en début de semaine, l'annulation du visa avait été cassée par le juge fédéral. Novak Djokovic mise donc sur un scénario similaire, d'autant que la justice australienne a accepté de reporter son expulsion. Le Serbe sera entendu ce soir 22h, heure française, par les responsables de l'immigration. Il devrait ensuite être placé en rétention à Melbourne avant une ultime audience dimanche devant la Cour fédérale. Une audience qui devrait enfin sceller le sort du numéro 1 mondial.
Novak Djokovic pourrait dans la foulée être interdit d'entrer sur le territoire australien pendant 3 ans. Et puis il y a du foot ce soir, début de la 21e journée de Ligue 1, Nice reçoit Nantes, coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, très bonne soirée à tous.
CFM Radio, la pop, le rock. CFM.
Est-ce qu'on déguste la suite ? Bon alors, toujours avec Philippe Audard qui est en grande
reprise,
forme.
Pour une reprise, on n'est pas en forme.
Non, ça fait un peu penser quand même à...
De
maladie d'EHPAD, ouais. Émilie,
tous les cheveux qui sont mal.
Ça va, qui pense qu'à une chose, c'est où est-ce qu'on va aller boire un coup après l'émission.
Exactement.
Le nez est pas beau ici. Donc.
si, il est bien là. Moi, je veux
le blanc est délicieux.
Le blanc était délicieux.
Le rouge, la amandeuse, là, c'est un peu jeune.
Il faut le laisser, il faut le perdre.
Oui, il aurait fallu attendre avant de l'ouvrir et puis, quelques mois, je pense. Et puis, peut-être demain, il sera peut-être meilleur. Tu le prendras à la maison et tu me diras.
Ouais, voilà. En attendant, on va se boire un petit gorgeon de la Bastidome. Là, on est dans le fronton. Et c'est, je ne sais pas, comment s'appelle le...
Tu sais, c'est Giove.
Giove.
Ouais, elle est bonne.
Ouais.
Giove.
Giove. Ça va ? Tout
la
va bien ?
Bastidome qu'on avait reçu dans l'émission.
Voilà, ouais, c'est ça. À réécouter en podcast sur cfmradio.fr. Rien de plus ? Un peu de musique ?
De musique peut-être, ou je sais pas.
Un peu de jazz peut-être ? Georges ?
Ah, la chronique de Georges.
Georges n'est pas là. Bon, il est excusé, il était chez le dentiste, il m'a dit.
Alors qu'on aurait pu en écouter 10 minutes.
Est-ce qu'on peut annoncer au passage qu'il y a un BD concert ce soir organisé par Confluence, Le Rio et Eidos, au Rio Grande, avec sur scène les musiciens de Totoro and Friend qui ont fait une création musicale sur la bande dessinée de Fab Caro, bande dessinée intitulée « Et si l'amour s'était aimé, c'est très drôle et c'est très chouette ». Rien à voir avec ce qu'on écoute. Hein. Okay, I understand. Golden pearls, pearls of shame. I'm streaming, I'm slipping away. We broke the bread, we did what we did. Oh marsh hen, I'm here for you. Slip to me. No victory for you and me. We'll hold your hand. With DOA, with DOA. Ivory castles just slip that way. We're civilians. Cheap meats. You tried your best too. Both did. Take me out of the speaker. Tu l'as au téléphone?
Attends, je sais pas.
Non, mais moi je l'ai pas. Il se trouve qu'Emilie est intime avec Philippe.
Non, je suis pas du tout intime.
Et donc, elle l'appelle, elle a son 06, donc elle est en train d'essayer d'appeler. Tu...
Philippe, ben voilà, si je l'ai là.
Ah ben alors,
c'est Emilie, tu lui dis qu'on... On est en direct sur CFM. Tu raccroches
Hein? On t'appelle,
on rappelle avec le standard. Voilà. On t'appelle avec le standard.
Allez, à tout de suite.
À de suite. À de suite.
Philippe qui est donc aux Émirats Arabes Unis.
Pilote,
pas... ouais, mais on n'a pas le numéro là.
Ah, t'as pas le numéro?
C'est le pilote ou le copilote?
Alors, Philippe, Philippe Pédèche, né le 14 août 1976 à Montauban, 1m70, 88 kilos, gérant de l'entreprise ADLTP. Tout le monde l'a connu, ce gars-là. Et tout le monde a râlé après lui à un moment dans sa vie parce que c'est lui qui avait la.
Qui avait la fourrière.
La fourrière à Montauban. Ah. Voilà. Et donc il est sur un Renault Kirax. Alors c'est pas la 4L, le Kirax, c'est un espèce de gros truc, c'est un énorme camion, tu sais. Hein. Et c'est sa première participation au rallye Paris-Dakar. Ouais, voilà. Au rallye Dakar, ça ne se dit plus du tout Paris-Dakar. Et je crois qu'il y a d'ailleurs plus le chanteur là, comment il s'appelle?
Balavoine,
il est plus non plus. Est-ce qu'il est avec nous, Philippe Pédèche? Allô?
Allô?
Allô, oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur CFM Radio. Où est-ce que vous êtes exactement, Philippe?
Là, on arrive au point de contrôle à Jeddah, à la fin du rallye du Dakar.
Bon, et comment s'est passé pour vous ce rallye? C'était la première fois pour vous, je crois, hein?
Ouais, c'était la première fois qu'on le faisait, qu'on le faisait tout court. Et en plus, en camion.
Et alors, belle aventure.
Bon, on a eu beaucoup de galères. Hein. Beaucoup de galères. Attendez, bougez pas. Ok.
Ah, vous êtes en train de rouler, là. Incroyable.
Non, on arrive au CH. Donc, en même temps, la dame me parle. Donc, je vous reprends. Donc,
décrivez-moi, vous êtes dans votre camion, vous êtes en train d'arriver, c'est quoi?
Là, on est dans le camion, on est en train d'arriver, on se dirige vers le podium. Autant vous dire qu'il y a énormément de monde ici, il y a de la circulation de partout.
Bon, racontez-moi, vous avez fait une bonne performance ou pas?
Bon, on a fini 40e des camions.
Pour combien?
56 camions.
Bon, oh, d'accord, camions. Et j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas fini aussi, parce que déjà finir, c'est une performance.
Ouais, il y en a qui n'ont pas fini, surtout on n'était que deux, sans assistance, sans rien, quoi. On a fait tout le rallye sans assistance, juste tous les deux avec mon ami Philippe Perry.
Et j'ai vu une photo sur votre page Facebook où on voit votre camion renversé à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, ben, en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on est amateur comme nous, on ne part pas dans les premiers, bien sûr, puisqu'il y a 300 véhicules. On part dans les derniers vers 14h, et donc la nuit tombe à 17h30. Donc on fait la moitié de la spéciale de nuit. Alors imaginez des dunes de 50 mètres d'eau à franchir de nuit. C'est un peu chaud, quoi. Et là, on est arrivé sur une crête de dune avec du dévers et on s'est couché au ralenti, on n'a rien abîmé.
Ouais. Mais bon. Mais comment on remet un camion comme ça sur les routes? Sur la j'allais dire sur la route, il n'y a pas de route, sur les roues.
Et après, il faut attendre qu'un autre camion arrive et qu'il vous tire. Parce qu'il y a vachement d'entraide entre les camions, quoi, sur le Dakar.
Ouais, parce que là, tu n'appelles pas à DLTP, quoi.
Ouais, là, on n'appelle pas à DLTP, non. Là, toutes les nuits, il y avait des camions qui se couchaient. Donc, un coup, c'est toi qui relèves le camion, un coup, c'est lui qui te relève. Il y a vachement d'entraide, quoi.
Est-ce que ça a été quelque chose de fatigant? Est-ce que vous avez eu des nuits blanches?
Ah ben là, les plus grosses nuits, c'était 3 heures. Et sachant qu'on a passé 3 jours sans dormir, même pas 10 minutes, quoi.
Ah ouais, quand même. Heureusement, vous aviez...
Ben ouais, parce que là, vous faites des spéciales à peu près de 400 km. À la sortie de la spéciale, vous avez 500 km à faire. Donc vous sortez, c'est 1h du matin. Vous avez 500 km pour rejoindre le bivouac. Le départ du rallye est relancé le lendemain matin. Donc vous arrivez, vous faites les niveaux, quatre conneries, et puis vous repartez dans la
C'était bien le bivouac.
Ah ouais. Donc à le refaire, vous le refaites, mais avec une équipe un peu plus costaud peut-être, non?
Ouais, il faut le refaire voilà, avec des mécanos et tout, qu'on ait le temps de se reposer, quoi.
Bon, la mécanique a souffert, mais visiblement vous aviez un camion quand même qui tient la route, quoi.
Ouais, mais après, c'était la première fois qu'on le faisait avec, on n'avait pas trop essayé, et on a eu quelques soucis de mise au point, quoi. Donc, on a des trucs à revoir si on le refait une prochaine fois, quoi.
Bon, si je vous appelle aujourd'hui dans l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, Philippe Pédèche et Philippe
Péry. On a bien dégusté, oui. C'est Péry, on a bien dégusté, oui.
C'est parce que vous avez bien dégusté, mais parce que j'ai vu aussi que vous étiez, vous avez mis sur Facebook un joli foie gras du resto de la Motte Cap de Ville, le Chabrol.
Ouais, mais c'est notre village où on habite tous les deux avec Philippe.
Bon, et alors ça donne donc, quoi quand on est dans le dessert, dans le désert, un foie gras? Qu'est-ce qu'on mange pendant le Dakar en fait?
C'est pas terrible ce qu'on mange. Hein. C'est pas terrible, c'est pas la gastronomie du sud-ouest. Hein. C'est pas terrible. Heureusement, nous, dans l'équipe qu'on avait intégrée, qui nous portait nos malles et nos pièces, ils avaient un cuisinier à demeure, quoi. Et qui, de temps en temps, ils faisaient quelques pas sympathiques, quoi.
D'accord. Vous aviez fait un peu des... Ouais, vous aviez, vous, emmené dans votre cantine... Bon, déjà, vous aviez le foie gras de Chabrol, vous aviez d'autres trucs comme ça.
On avait amené des produits du sud-ouest, quoi.
Ouais.
Parfois, on n'avait pas pris d'alcool, parce que c'est strictement interdit, ici.
Et ouais.
Donc, pas d'alcool, juste, quoi, des produits locaux. Il fallait,
c'est la dèche. Pas de cochon non plus. Pas de... Ouais, bon. Donc, c'est pour ça, le foie gras, c'est bien, parce que...
Pas voilà, on a pris du canard. On a pris des fritons, on avait pris des foie gras.
Ça, bon, donc là, vous êtes sur l'arrivée, la ligne d'arrivée, vous allez monter sur le podium. Comment ça va se passer, là?
Et là, voilà, c'est ça, Mansoupel. On s'est garé pour vous parler, pour pas que ça soit trop le bazar. Et là, on se dirige vers le podium final, où on va faire la photo, et puis voilà.
Bon, ben, bravo encore, messieurs, Philippe Pédèche et Philippe Péry, l'équipage numéro 545 sur un Renault Kerax, c'est ça, hein?
C'est ça, exactement.
Et donc, 40e sur 56, bravo, je pense qu'on peut les applaudir, quand même. Oui, j'en représentais le Tarn-et-Garonne, oui, là, quand même. Hein.
Merci.
Allez, merci à
on
vous.
On a fait notre mieux, mais nous, notre objectif premier, c'était d'arriver, quoi.
Ouais,
de
ne
pas
vous...
être disqualifié et de ne pas abandonner, quoi.
Ça marche, merci, c'est les gars, au heure. Plaisir.
Voilà, ben, merci à vous.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez. Hey, qu'est-ce qu'on déguste dans l'actualité, quand même,
oui. Hein. Et à l'international.
Et à l'international.
Ah non, des boîtes.
Je ne plaisante pas non plus.
Ouais, ouais. Numéro 1 2022, promis. Ça promet pour la suite.
Le temps que ça arrive, je suis allé rendre visite à, vous vous rappelez, on avait reçu ici la ferme en aquaponie, là, l'île aux légumes, vous vous rappelez de ça? J'avais dit, tiens, au bout de 3 ans, je vais aller leur rendre une petite visite, c'est un reportage qu'on pourra entendre sur CFM la semaine prochaine. Et donc, je suis allé les voir. Et alors, en fait, ils ont pas... Enfin, le projet a été un peu chaotique, là, pendant la pandémie, évidemment, parce qu'en fait,
ils livraient
les restos. 18 restos, ils livraient sur Montauban, quand même. Donc là, maintenant, ils continuent d'en livrer 3 ou 4. Et donc, ils ont pris un biais plus recherche et découverte, recherche et développement, maintenant. En fait, ils vont travailler avec l'INRA. Et
ils font plus de la recherche que de la production.
Voilà. Ouais. La recherche sur tout le process. Mais ça va bien. Ils sont quand même contents. Tout va bien. Ça fonctionne. C'est très, très positif. Et ils vont continuer, dès que c'est possible à nouveau, de faire du maraîchage pour les restos. D'ailleurs, ils continuent de les fournir, les quelques restos.
Ouais, ils fournissent encore Antoine.
Avec
crois,
en herbe.
Et quelques restos un peu.
Les herbes aromatiques. Ouais. Voilà. Et ils ont eu quand même, pour leur département Aquacosi Développement, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ils ont eu un prix.
Ils ont eu un prix au leader de l'économie de Grand Montauban.
Et ouais, là où je me suis fait vautrer.
Toi, tu n'as pas eu le prix?
Non, j'ai pas eu mon prix. Je leur en veux pas, mais bon.
Qu'est-ce que tu présentais, toi?
C'était quoi ton innovation?
Des systèmes pour ne pas dépenser de plastique, tout ça. Mais je suis arrivé à l'arrache un peu. Donc,
comme d'habitude, qu'est-ce que tu voulais gagner?
Comme d'habitude, tu te le gardes, tu te le carres où je pense. Et non, mais bon, voilà. Mais non, mais c'est bien, c'est remarquable. Petite entreprise sympathique. C'est des jeunes, eux.
Mérite. Voilà, le vieil aigri, là.
C'est vrai, il fait un peu vieil aigri, là, quand même. Hein.
Vieil aigri.
Vieux que aigri.
C'est ce qu'on dit, quand la marchandise se détériore, il faut soigner l'emballage.
Oh
oui. Non, mais eux, ceux qui savent pas, c'est qu'ils voient la neige sur le toit. Mais ils savent pas qu'il y a le feu dans la cheminée. Parce que chez eux, il n'y a que les tisons. Et encore, les cendres, peut-être.
Qu'est-ce qu'on déguste? Un peu de musique, allez hop.
Du reggae ou de la musique folk?
Du reggae.
Reggae man.
Reggae night. Hop, hop, hop.
want me to make a hit song? Please give me the recipe. Put in the right foot in the cooker's a necessity. Eyes wide open when I wander in the city. Get the vibe, the skills, the flow, probably not the chemistry. Ain't no fate, hard work only will pay off. You're pulling all nighters, might be the only trade-off. Passion and tenacity are what my dreams are made of. Let's try, fuck it if I'm way off. Man, I'm loving art in its purest form. Long before the U was born. Money, the newest norm. Suit and ties and uniform. Ambiguous times, trying to make it through the storm. All I wanna do is to perform. God bless me cause I least time. Still doing the things I love. Sometimes I really miss my telly and my beers. I'd rather stand still, but I have to pay the bills, so gotta make a hit song, tell me how the beat sounds, yeah, yeah. We stick in a diamond day to day and try, yeah, yeah. Try, yeah. Try to make a hit song, tell me how the beat sounds, yeah, yeah. Is it a senseless game to play? Try, yeah, yeah. Try, yeah. Hey, I'm ACT up on the mic. Find nothing but me close to the goalie. Know me, know me, off you do me thing. But what me want fi know is how I beat Shaggy right, it wasn't me. How can I make it straight like Molly? How did them all do to find the melodies? Did they all of them know how to make a hit song? How to make a beat song? Yeah, yeah. Got we sick in a diamond day today.
Smoking grass in Hollywood, but I feel like I'm always chasing shadows after all. Don't wanna waste my time living a life without a goal.
Hey. Me I fi keep in mind, say me army never go left me. Give me the energy and tell me say me gifted. Them say them love but this ya lick or something. Say me not fi follow no man I keep it authentic. Boy, me I wonder if it's worth it. Better we are one life. Me shouldn't bother with the famous spotlight. Still I know that I gotta make a hit song. Tell me how the beat sounds. Yeah, yeah. We're sick in a diamond day to day. And try, yeah, yeah. Try, try to make a hit song. Tell me how the beat sounds. Yeah, yeah. Is it a senseless game to play? Try, yeah, try, yeah.
Qu'on déguste. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Moi, non, je voulais dire bonne année à tous. Et on n'a pas, pas souhaité nos voeux.
Non.
Ouais. Les meilleurs voeux de santé.
Ouais. De liberté.
De bonheur.
Et de liberté.
Liberté, ouais. Liberté.
Ouais, d'amour.
D'égalité.
Meilleur voeux d'amour.
Ah, mais
meilleur
voeux
d'amour.
Ça, c'était avant. L'amour, ah oui. Mais
d'autres... Et de sexe.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait dans les vignes l'hiver, dis-moi
Eh bien, l'hiver, on taille.
Bon.
On taille la vigne, parce que si tu tailles pas la vigne, t'as pas de fruits. Ou très peu. Et la vigne, c'est une liane, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça fait que pousser. Du coup, on est obligé de la rapprocher de la terre, du sol, pour avoir du fruit et pour pas qu'elle dégénère dans tous les sens. Il y en a qui font de la non-taille, mais il n'en reste pas beaucoup.
Il y en a qui passent aussi tout simplement avec des machines, là, avec des espèces de gyrobroyeurs et qui coupent comme ça. Bon,
la taille, ça s'est toujours fait au sécateur. Ouais. Et maintenant, il se fait ce qu'on appelle la taille mécanique. Mais pas très adapté à faire du bon raisin ensuite. Quoi.
Ouais.
Ouais, ça te met plein de petits. Ouais, ça fait des buissons, t'as vachement de végétation, c'est plus propice à la.
Allez, Marou le fait ça.
Oui, mais il est empégué de Blackrot, la un champignon qui est en train de se développer de plus en plus là. Et
tu veux dire qu'une certaine taille, ça peut engendrer des champignons ?
Oui. Mais non, c'est le fait, si tu veux, qu'il y ait beaucoup de végétation, beaucoup d'humidité et moins d'aération au milieu de la souche qui favorise le développement du champignon avec l'humidité.
D'accord, donc toi tu pratiques une taille qui a un nom particulier dans tes vignes au domaine de l'arpète.
On essaie de... Alors moi j'ai des vignes en gobelet, c'est-à-dire sans palissage, donc là c'est des tailles courtes, un petit courson, on laisse à chaque fois des petits bouts.
Avec deux yeux, enfin deux
voilà, un œil ou deux. Et après, il y a la taille...
Parce qu'un œil, ça va devenir une branche, hein, c'est ça ?
Oui.
Un petit bourgeon, là.
Un sarment.
Voilà. Ça va pousser.
Sur le sarment, il y aura, s'il est fructifère, deux grappes. Deux, trois grappes. Et ensuite, il y a la taille guyot. C'est-à-dire avec la baguette, la flèche, là.
C'est-à-dire, non, c'est quoi ?
On laisse un sarment de l'année où il y a 7 ou 8 bourgeons qui vont donner 7 ou 8 rameaux. Et sur ces 7 ou 8 rameaux, il y aura 2 grappes par rameau, à peu près. Donc ça fera une douzaine de rameaux par souche.
De grappes. De grappes. Voilà, et de l'autre côté, on laisse.
Et tu laisses un courson.
Voilà.
Alors, nous, on pratique, j'en avais parlé une fois, la taille qu'on appelle la taille poussard. Un peu. En fait, poussard, c'est un gars, ils se sont rendus compte que le fait de mutiler la plante tous les ans, il y avait des mortalités. Mais il y avait des mortalités, et ces mortalités sont dues à une mauvaise circulation de la sève dans la souche par des blocages dus au plaid. Donc il faut faire attention à couper au bon endroit, à laisser un flux de sève le plus régulier possible et le plus direct possible vers le bout des coursons et que tu laisses. Voilà. Donc on essaie de tailler en fonction de ça. Une technique. Et il y a une contradiction, c'est le fait de tailler comme ça, ça allonge la souche, c'est-à-dire que la souche, ça, on va de plus en plus haut ou de plus en plus loin. C'est une contrainte, mais c'est un choix à faire.
Donc au bout d'un moment, tu es obligé de couper tout, d'arracher ta vigne.
Non, t'es de plus en plus haut ou
de plus en plus large. Hein.
Voilà.
D'accord.
Mais c'est comme ça.
Bon. Ok. Et t'es tout seul à tailler ou t'as toujours ton équipe ?
Moi, je taille un peu, puis là, j'ai une salariée, puis cette année, j'ai un stagiaire, on sera deux ou trois, voilà.
T'as eu combien d'hectares ?
Six.
Quand même.
Quand même.
6, ça fait 6 fois, ouais, taillé, 6 bien, fois 5, 30 000.
Après, il faut enlever les sarments et puis il faut aussi attacher.
Une minute par souche.
C'est ça qui est long.
30 000 pieds.
Mais t'attaches minute, tu t'attaches pas.
Ah non, quand tu attaches, tu vas plus vite, ouais.
Donc tu attaches pas, là, en une minute.
Non. Non.
Et tu retires pas les sarments non plus.
Si.
Ah, tu retires les sarments en une minute. Tu tailles.
Ouais,
et tu retires.
C'est ce qu'on dit, une minute par. Des fois, ça, tu vas plus vite. Ça dépend de la souche.
Messieurs, bien. C'était poussif comme émission de rentrée.
Poussif.
Mesdames aussi. Je compte sur vous pour que.
Le maître d'école. On est combien sur 10 sur 20
Tu m'as pas si vous avez la maille. Mais moi non plus. Hein. On n'a pas la maille aujourd'hui. C'est comme ça. Voilà.
C'est vrai.
On se revoit le 28 janvier. Ce sera mon anniversaire. Vous avez intérêt d'être bon.
Ouais.
Et bonne. T'as intérêt d'être bonne.
Ouais.
Hein
28 janvier.
Vendredi 28 janvier. Pour le prochain, qu'est-ce qu'on déguste ? Dans 15 jours, en fait. Ça marche ?
Alors, qu'est-ce qu'on mange le 28 janvier ?
Ah ! Qu'est-ce qu'on déguste ? Je ne sais pas, on verra.
Une petite fondue ?
J'ai ramené le champagne, aujourd'hui.
Ah ben voilà, tu l'emmènes la prochaine fois. Merci !
Merci.
Si,
oui.
Mais moi, je voudrais... Bon, elle est fermée actuellement pour raisons administratives, mais notre copine, la grosse Lulu, qu'on appelle... qui a ouvert son petit troquet dans Gaillac, je crois que ça s'appelle Au Goulot. Voilà, une petite cave à vin, bar à vin nature, très sympathique.
Elle est où à Gaillac ?
Elle est, quand tu descends de la place de la Libération vers le Griffoul, tu passes l'église sur la gauche, une petite ruelle, là, et une petite cave. Là. Ils font des petites assiettes fromage charcuterie, ils ont du bon vin et de la bonne bière.
D'accord.
Et on rigole bien, voilà.
Mais c'est fermé.
Elle est emmerdée là, entre les voisins et l'administratif. On va bientôt rouvrir.
Bon, à très bientôt chez la grosse Lulu.
Voilà.